Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mon invité d'aujourd'hui est connu ici comme le loup blanc. C'est Cécile Carrier que je salue tout de suite.
Bonjour, bonjour à tout le monde.
Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas entretenu, mais on garde toujours le contact. Et on se connaît depuis fort longtemps, depuis le musée lorsqu'il était installé dans les vieux locaux qu'on connaît, jusqu'à aujourd'hui dans notre beau musée de l'art humanité. Donc vous êtes, Cécile, sauf si je me trompe, docteur en histoire de l'art et archéologie. Vous êtes adjointe du patrimoine chargée d'études au service des collections du musée de l'art humanité.
Oui,
toujours
ça.
Bon.
Toujours bon.
Spécialiste de la statuaire. Alors là, je le sais depuis fort longtemps, car vous m'avez appris tellement de choses. Et oui, en effet, vous m'avez appris à moi beaucoup de choses et à mes élèves aussi. Et vous avez guidé bon nombre de nos auditeurs dans les émissions Antiquissimo, leur apprenant à regarder autrement ces pierres qui sont tout sauf inertes, ces pierres que l'on nomme statues, sculptures et qui sont tellement vivantes. Vous en êtes donc la spécialiste.
Et oui, ça arrive, des choses comme ça. À l'époque où j'ai commencé, j'étais toute jeune, on traitait de dinosaures parce que ce n'était pas à la mode à l'université. Et ça me faisait plaisir à 20 ans de me faire traiter de dinosaures.
Oui, à cet âge-là, c'est drôle. Après, c'est moins drôle.
Oui, voilà.
Et alors justement, aujourd'hui, eu égard à toutes les émissions qu'on a faites dans le musée, autour du musée, autour des œuvres, eh bien, j'ai eu envie de m'intéresser plus spécialement à vous, à votre parcours, à votre passion, à ce sujet que vous avez choisi, vous avez commencé de nous l'expliquer. Ce sujet qui est si prégnant dans l'histoire de l'art et qui nous permet d'accéder à beaucoup de données, on en parlera tout à l'heure. Alors, j'aimerais que vous nous disiez peut-être quand ça a commencé. Est-ce que c'est toute petite que vous avez eu la vocation pour l'histoire de l'art en général et pour les pierres en particulier, ou bien est-ce que c'est venu beaucoup plus tard?
Alors, l'intérêt pour l'archéologie en général, je devais avoir à peu près 5-6 ans. Alors, je ne le formulais pas, évidemment, avec les mots d'aujourd'hui, mais je grattais déjà la terre. Et en fait, ma mère se désespérait parce qu'au lieu d'aller jouer avec les autres, je déterrais systématiquement les pieds du banc sur lequel elle s'asseyait dans les parcs. Et dans notre jardin, on avait un tout petit jardin et mes parents avaient mis un tas de sable pour faire des travaux de je ne sais pas quoi. Et j'ai perpétuellement fouillé ce tas de sable pendant des heures. Quoi. Enfin,
oui, vous étiez très en avance sur l'époque, parce qu'aujourd'hui, c'est la passion de beaucoup de musées d'initier les enfants à l'archéologie avec des bacs comme ça, oui. Semblables, truqués, où on met plein de petites choses à déterrer.
Oui, oui, ma mère se désespérait parce que bon, les parents espèrent toujours qu'on va se faire des amis, qu'on va jouer à plein de choses et en fait, non.
Et alors, en ces jeunes temps, avez-vous trouvé des choses déjà?
J'ai mangé les cailloux que j'ai trouvés surtout, ce qui affolait beaucoup mes parents aussi. Bon, ça, j'étais vraiment petite, hein, parce que pour
donc, manger les cailloux... Donc, née sous le signe de la pierre.
Ah oui, oui, ah, oui. Oui. Bah, avec mon nom déjà, c'était un peu prédestiné. Mais avec le collège et lycée, on affine évidemment tout ça. Et comme j'avais un frère aîné qui, lui, évidemment, s'informait sur les cursus, c'est lui qui m'a dit que pour faire archéologue, il fallait faire histoire de l'art. Alors du coup, j'ai suivi ce que mon frère m'a dit. Et après un bac scientifique, puisque bon, j'avais quand même une prédilection aussi pour les sciences quand même, ce qu'on appellerait les sciences dures à l'époque. J'aimais beaucoup notamment tout ce qui était biologie et notamment la biologie humaine. Ce qui m'a bien servi par la suite pour
évidemment.
Étudier la statuaire,
oui.
D'ailleurs. Et donc, j'ai quand même fait un bac scientifique parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne suis pas du tout, mais du tout littéraire. Donc, si je vous disais mes notes que j'ai eues en français, vous seriez
affolée. De toute façon, il faut un petit peu évacuer tous ces clichés qui voilà. Fait que si on est historienne de l'art, on est forcément dans l'imaginaire. Et en fait, non. Ce sont des métiers alors, où il faut de tout.
De tout. En fait, en histoire de l'art, il faut être extrêmement rigoureux et avoir énormément de méthodes. Donc, en fait, la rigueur scientifique que j'avais acquise pour le bac m'a énormément aidée pour la suite.
Alors, comment est-ce qu'on fait de l'histoire de l'art une fois qu'on a son bac?
Alors, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais je pense que ça n'a pas dû beaucoup changer. On va dans une fac d'histoire de l'art. Et c'est Alors au début, je râlais un peu parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de l'archéologie déjà antique. Je râlais parce qu'il fallait avaler de l'art contemporain, enfin de l'art moderne et tout, qui m'intéressait moins. J'avais une cousine qui faisait aussi histoire de l'art et qui m'avait dit, mais il faut garder l'esprit ouvert. Et je trouve au jour d'aujourd'hui qu'elle avait tout à fait raison. Merci Fabienne, ma cousine.
J'espère qu'elle va écouter cette émission.
Alors, en général, je lui envoie.
Et en être émue de cet hommage. Et oui, effectivement, il faut des qualités scientifiques étonnante et une ouverture d'esprit qu'effectivement on va se rendre compte que alors d'abord le présent se nourrit du passé évidemment et puis en fait on va pouvoir comparer.
Il y a des passerelles, énormément de passerelles en fait et on comprend notre présent si on connaît le passé et on peut le construire le futur à partir de là. Donc moi je trouve qu'effectivement c'est intéressant d'avoir une vue, alors évidemment on peut pas être spécialiste de tout, hein, il faut pas rêver, mais c'est bien d'avoir quand même une vue un peu générale que ce soit en histoire de l'art ou en histoire, je pense que c'est intéressant. Et moi, ce que j'avais apprécié, parce que j'ai fait mes deux premières années d'université à Clermont-Ferrand, et c'était ce qu'on appelait un degré nové à l'époque, et j'avais autant d'histoire de l'art que d'histoire, parce qu'ils estimaient qu'un historien de l'art devait connaître parfaitement l'histoire pour pouvoir intégrer son étude dans le cours de l'histoire, effectivement, du peuple dont on étudiait l'art. Et c'était très intelligent comme façon de faire, j'ai trouvé.
Et alors après, quand est-ce que vient la spécialisation vers l'archéologie ?
Alors, vers l'archéologie, déjà en troisième année, ce qu'on appelait autrefois la licence, j'ai commencé à apprendre, quand on a le jeu des UV, ce qu'on appelait, je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui.
Oui, mais je crois qu'on a gardé ce terme.
Ce terme, voilà. Parce que bon, je commence à être une vieille peau, moi. Ça, grâce à ce jeu-là, j'ai pu avoir une majorité d'UV en archéologie, en histoire de l'art grec, romain, archéologie, etc. Donc c'est déjà en troisième année, j'ai commencé à m'orienter un petit peu. Puis en venant sur Aix-en-Provence, je savais que j'allais avoir des cours avec des professeurs qui étaient bien connus et très qui étaient déjà des pontes à l'époque. Alors qu'à Clermont-Ferrand, on était plus sur le médiéval et le moderne en fait. Donc c'est pour ça que j'ai quitté ma région pour venir dans le sud et à Aix-en-Provence.
Et là, vous avez fouillé aussi.
Alors, c'est à cette époque où on devait faire un stage de fouille. Alors, j'avais plus fait de fouille depuis l'âge de 10-11 ans, puisque moi, j'ai commencé mes fouilles à 10 ans, en fait. Et j'en ai fait pendant plusieurs années. Puis, j'avais arrêté parce qu'avec le lycée, ça devenait compliqué. Et quand j'ai repris, donc, c'était justement en licence, donc en troisième année de fac, j'avais un stage pour finaliser une UV en archéologie de terrain. Et c'est là où je me suis rendu compte que physiquement, j'avais des gros problèmes et que malheureusement, l'archéologie de terrain, c'était terminé pour moi. J'en ai pleuré, je peux vous le dire, parce que pour moi, c'était vraiment ça que je voulais faire.
Oui.
Et donc, il a fallu trouver une autre solution, quoi. C'était pas eu de choix pour continuer. Et c'est des rencontres avec des professeurs, donc avec notamment un professeur que j'avais en licence, qui étudiait la sculpture de Gaulle-Narbonnaise, donc de notre région sud de France, et qui cherchait des étudiants. Et donc, du coup, pour ma quatrième année, donc ce qu'on appelait la maîtrise à l'époque, ce professeur a accepté de me prendre comme directeur de maîtrise. Et c'est là où vraiment je me suis spécialisée parce que à ce moment-là, en quatrième année, on n'avait plus de cours. On pouvait assister à ce qu'on appelait des séminaires. Oui. Là, c'était les grands pontes, les grands professeurs qui faisaient ces séminaires. Donc, il y avait 2-3 séminaires dans la semaine et encore pas toujours. Mais après, tout le reste, c'était trouver un sujet, le formuler, faire la bibliographie et ensuite commencer à faire un travail de fond en fin d'année. Donc là, on n'avait qu'une année, ce qui est très court, pour faire un mémoire sur un sujet.
Et alors, c'était quoi votre sujet de mémoire ?
Et mon sujet, c'était sur l'iconographie d'Apollon et Artémis, le duo solaire et lunaire. Parce que c'est toujours un duo qui m'intéresse.
Et en rapport avec Aix-en-Provence ou bien...
Alors tout le sud de, j'avais fait tout ce qui était sud, enfin la Gaulle-Narbonnaise, quoi. Voilà, donc.
Oui, il y avait du travail. Hein.
Oui, mais moins que ce que j'aurais cru en fait au final, parce que quand j'ai commencé à analyser, il y avait des typologies qui étaient mal identifiées, donc il y a des objets qui n'ont pas fait partie de mon corpus. Et puis ce qui est compliqué en maîtrise, c'est qu'on prend beaucoup de temps pour s'organiser, parce que c'est la première fois qu'on est lâché dans la nature.
On apprend à chercher, et
surtout à définir un sujet, ce qui n'est pas toujours évident, un sujet qui doit tenir sur une année, quoi. Donc c'est là où j'ai commencé à vraiment travailler sur la sculpture. Et en plus, ce professeur était lié à un ingénieur de recherche du CNRS, du Centre Camille Julian à Aix-en-Provence, qui s'appelait Daniel Terrer. et que je salue au passage d'ailleurs, et que donc on m'a installée dans son bureau parce que elle avait les gros ordinateurs de l'époque et elle commençait avec un ingénieur de recherche en géographie, je crois. Il commençait à établir une base de données informatique, une des premières bases de données informatiques sur la sculpture de Gaule Narbonnaise et ensuite ça sera élargi sur toute la Gaule. Voilà. Donc, du coup, il y avait une espèce de d'émulation là qui se faisait entre fiches papier et modernité qui arrivait avec le début de l'informatisation des collections, quoi, des corpus.
Et avec, c'est toujours la même idée que dans ces domaines, il faut être polyvalent.
Ah oui.
Et il faut avoir donc accès des techniques et puis avoir cette rigueur scientifique dont on parlait tout à l'heure, tout en s'intéressant à la mythologie. Enfin bon, c'est un parcours croisé en fait.
Ah oui. Oui, parce qu'en plus, là, comme j'ai fait Apollon Artémis, forcément, là, j'ai fait beaucoup de mythologie à ce moment-là. Ça a passé après. Mais maintenant, ça, curieusement, c'est ce qui m'intéresse le moins, au final. Mais à l'époque, j'étais plus tournée vers la mythologie et les personnages divins et les personnages qui sont dans toute cette mythologie. Et qui sont, alors qu'aujourd'hui, c'est plus les portraits alors, impériaux et privés, parce que dans les portraits privés, on a beaucoup de richesses aussi, et peut-être moins conventionnelles que les portraits impériaux. Donc, je trouve ça très intéressant aussi d'aller vers le côté privé. J'ai beaucoup fait sur le public et sur l'officiel et l'impérial, mais en fait, au jour d'aujourd'hui, je suis presque plus attirée maintenant par la sphère privée.
Oui, et puis en même temps, je le constate tous les jours, quand on croise le regard de ces pierres,
oui,
on se sent en contact avec de l'humain, quoi.
Ah oui, tout à fait. Là, on pénètre. Puis quand on fait là, j'ai eu la chance de faire un travail avec notamment Michel Christol, mais aussi avec d'autres épigraphistes. Quand on a la chance d'avoir des portraits accompagnés par des inscriptions, franchement, le travail à deux comme ça, sur deux matières qui se complètent, c'est fabuleux. Et pareil, quand j'étais en thèse, j'ai travaillé avec un étudiant qui faisait des costumes, enfin, qui étudiait tout ce qui était costumes. C'est l'archéostyliste qui m'a formée aux vêtements. Là aussi, c'était passionnant parce que, évidemment, dans les sculptures, on a forcément du vêtement. Et donc, vraiment, on se complétait aussi. Donc, il y a toute une émulation qui se fait aussi entre nous, quoi. Enfin, entre les chercheurs, les étudiants. Chacun, avec sa spécialité, apporte quelque chose.
Et alors, ça m'amène à rappeler des choses basiques. C'est que quand on s'intéresse aux statues à la pierre, on s'intéresse à comment c'est fait, comment
exactement,
c'est fabriqué. Et puis, on s'intéresse au rendu, c'est-à-dire qu'est-ce que j'apprends avec... Et vous m'avez appris à décoder énormément de statues. On peut, avec une coiffure, avec un pli... Et j'en profite pour rappeler que vous avez animé dans la dernière exposition un parcours passionnant sur le vêtement, justement au travers de la statuaire. Et on a eu la chance de profiter de votre savoir et de votre savoir-faire avec ces vêtements, effectivement. Donc, il y a à la fois l'aspect technique, l'aspect social, l'aspect humain.
Oui.
Tout se mêle ici, dans cette approche de la statuaire.
Ah oui.
Alors, par exemple, donnant un exemple à nos auditeurs, quel élément de la coiffure pourrait nous dire à quelle époque on serait, par exemple,
oui,
une mode?
Voilà. Alors, par exemple, à l'époque flavienne, c'est-à-dire à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, les dames ont une espèce de montagne de petites boucles sur le devant de la tête qui monte en diadème, en fait, et à l'arrière, elles ont une énorme chignon de tresse. Donc là, c'est très reconnaissable, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est assez amusant à regarder. Et d'ailleurs, un de mes coups de foudre artistiques et un de mes coups de foudre au point de vue technique, c'est une tête d'époque féminine d'époque flavienne qui est au musée du Capitole, qui est dite Vibia Matidia, mais c'est pas, on ne sait pas qui c'est en fait, hein, elle a été nommée comme ça. Et parce qu'au départ, moi, je trouvais cette coiffure ridicule. Parce que voilà, on apprend aussi.
Oui, c'est ça,
aussi.
C'est pas pour autant qu'on aime.
Voilà,
on
ne
va pas forcément trouver ça beau.
Et en fait, ce portrait que les gens peuvent trouver sur Internet assez facilement, parce qu'il est hyper connu, en voyant ce portrait en vrai, je me suis rendu compte du travail de sculpture qu'il y avait pour mettre en valeur toutes ces mèches qui étaient vibrantes à la lumière. En plus, j'ai eu la chance, je suis arrivée dans la salle du musée du Capitole au moment où le soleil rentrait dans la pièce. Et j'ai vu le soleil rentrer dans les creux des boucles et ressortir pour taper ce qui était en relief. On aurait cru que c'était une vraie
chevelure.
C'était un travail de sculpture extraordinaire. Et depuis, je regarde ces coiffures d'un autre œil. Alors après, évidemment, tous les sculpteurs n'ont pas cette habilité. Il y a des coiffures de cette époque flavienne
qui
sont
un
petit
peu
vraiment
trop
pas merveilleuses. C'est très plat, ça n'a pas de sens. En fait, ils font des trous au trépan et puis c'est tout, quoi. Alors, évidemment, ça n'a pas le même rendu. Mais là, du coup, je me suis rendu compte effectivement que sur des portraits de haut de gamme, ce type de coiffure, voilà, c'est extraordinaire. Et voilà, ça, ça a été un choc esthétique, mais aussi un choc technique, si je puis dire, de l'habileté, de la virtuosité même, je dirais, des artistes de l'époque, enfin des artisans, parce qu'à l'époque, ce n'est pas des artistes, c'est des artisans.
Alors, Stone, le monde est stone pour vous. Nous allons faire une pause musicale appropriée et on se retrouvera après, justement, pour parler peut-être de vos coups de foudre.
Oui, il y en a beaucoup.
À tout à l'heure. C'est la deuxième partie de l'émission Antiquissimo consacrée à Cécile Carrier et à son parcours au milieu des pierres et à cette manière qu'elle a de nous décrypter ces pierres dont j'ai dit tout à l'heure qu'elles étaient vivantes. Alors, des coups de foudre, en 9 minutes, ça va aller vite.
Ça va aller vite,
hein,
oui, ça va être compliqué.
Mais, alors, on va déjà commencer par vraiment les incontournables.
Les incontournables. Alors, les incontournables, j'aime les beaux gosses, il faut bien le reconnaître.
Ah, oui.
Et un de mes premiers coups de foudre, ça a été sur une statue qui s'appelle, enfin, un type statuaire qui s'appelle Apollon de Cassel.
C'est quand même pas mal, Apollon. Hein,
déjà, ça commence bien. Forcément, avec ma maîtrise, comme j'étais sur Apollon et Artemis, forcément. Qui est donc une œuvre du premier classicisme, mais vraiment à cheval entre ce qu'on appelle l'époque sévère et le premier classicisme, c'est-à-dire au tout début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et justement, cette œuvre allie deux styles que j'aime beaucoup, c'est-à-dire le dernier art archaïque, que je trouve magnifique, car très ornemental, et le premier art classique qui est encore pas trop maniéré, qui est encore assez sévère, d'où l'époque sévère.
Oui.
Et donc ça déjà, voilà, certains exemplaires ont une coiffure qui est très travaillée, avec des boucles, des tresses qui sont magnifiques, il faut bien reconnaître. Et je trouve que le corps masculin est assez viril, mais pas si schématisé quand même. Là, franchement, j'ai découvert voilà, une beauté masculine à travers cet Apollon.
Et quelque chose de réaliste et d'humain, alors qu'on parle du divin.
C'est ça, oui. C'est vraiment c'est des œuvres que je trouve assez belles de ce côté-là.
Et alors, vous l'aviez rencontré comment, cet Apollon?
Alors, au départ, par photo, forcément. Oui. dans l'amphithéâtre, quand vous avez ça en grand, ah oui, forcément. Et alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la première chose que j'ai vue, c'est une tête, c'est la tête. C'est qu'après que j'ai découvert le corps, donc j'ai flashé déjà sur la tête, sur le rendu des lèvres, qui sont à la fois charnues, donc un peu féminines, mais qui sont sévères dans l'expression. Il ne sourit pas, en fait, et il est un peu dur même d'expression, et j'ai trouvé ce rendu assez beau. Franchement, ça m'avait beaucoup plu, quoi. Enfin, voilà, c'est un petit craquage.
Et alors après, vous l'avez vu en vrai ?
Je l'ai vu en vrai. Et là, c'est une petite plaisanterie, mais je suis allée au musée du Capitole lors d'une de mes bourses à l'école française. Et c'était au moment où le musée capitolin était en plein travaux de rénovation. Tout était en caisse, tout était en réserve, emballé, etc. Et moi, je devais voir une copie de la Vénus d'Arles, puisque c'est plutôt la Vénus d'Arles qui est une copie certainement de celle de Rome. Et donc, il a fallu prendre rendez-vous. Donc, j'ai fini par en avoir un. Une conservatrice du musée du Capitole, qui doit être à la retraite maintenant, m'accueille gentiment, une personne agréable, très gentille et tout. Puis, elle m'amène dans la réserve où était... accumuler toutes les œuvres qui sont d'habitude présentées. Alors là, c'était, je vous dis pas,
un foutoir,
non, parce qu'ils avaient rangé, mais bon, c'était un labyrinthe, quoi. Et puis, vous frôlez des objets qui, bon, normalement, vous n'êtes pas censé toucher, donc c'est, même s'il y en avait certaines qui étaient emballées, bref. Bon, j'étudie ma Vénus, j'en ai eu pour un moment, puis au bout d'un moment, la dame revient, puis elle me dit, ben, profitez-en que vous êtes là, même si vous avez pris rendez-vous que pour cette heure, profitez-en s'il y avait autre chose que vous voulez voir. Puis, je savais qu'ils avaient un Apollon de type Cassel. Alors je dis, j'aimerais bien voir l'Apollon. Elle me dit, oui, justement, il est presque à côté de la Vénus. Alors je dis, oui. Puis je vois emballé dans un papier de protection. Alors je dis, il est emballé, tant pis. Elle dit, non, mais il n'y a pas de problème, on a le temps et tout. Et alors, en fait, il était emballé de telle manière que pour le déballer, il fallait soulever l'espèce de papier tissu depuis le bas, puis remonter jusqu'à la tête. Comme on enlèverait une tunique.
Oui.
Alors on commence à déballer. Puis évidemment, c'est un beau gosse, quoi. Donc on remonte. Puis au bout d'un moment, évidemment, j'étais jeune, je devais être rouge comme une pivoine, forcément. Puis je jette un coup d'œil à la conservatrice qui me regardait, qui voyait ma gêne. Parce qu'on avait vraiment l'impression de déshabiller quelqu'un, quoi. Ouais. C'était vraiment, parce qu'il est vraiment tout nu, quoi. Et elle me regarde, elle me dit, il est beau, hein. Alors, je fais, oui. Bon, j'étais très timide à l'époque et tout, évidemment, au jour d'aujourd'hui, on n'a plus les mêmes impressions, mais c'est vrai que, bon, à l'époque, on a 20 ans, on a les hormones qui titillent, enfin bon, il y a plein de choses, quoi, je veux dire. Puis on découvre aussi, enfin, c'est le contact vrai avec les œuvres, c'est-à-dire il y a toute la sensualité que le sculpteur y a mis, toute la sensualité du modèle aussi, enfin, je veux dire, c'est très tactile.
Et l'aventure du jour, c'est-à-dire le déshabillage,
la découverte, voilà, c'est ça, c'est ce côté aussi un peu inattendu. À l'époque, je connaissais pas trop le fonctionnement des musées, enfin déshabiller une sculpture comme ça, c'est particulier, quoi. Enfin, c'est, voilà.
Et elle est grande, cette statue?
Ah, bah oui, elle fait 1m80, 2m, je sais plus. Enfin bon, c'est plus le socle, quoi. On était sur un escabeau quand même, donc vraiment.
Il aurait fallu filmer.
Presque.
Donc ça, c'était le coup de foudre qui vous vient tout de suite à l'idée.
Oui, qui me vient tout de suite à l'idée. Après, il y en a plein d'autres, hein, mais c'est vrai que voilà. Après, il y a aussi des découvertes aussi. Hein. Par exemple, quand j'ai commencé en maîtrise avec Artémis, j'ai découvert ce qu'on appelle l'Artémis d'Éphèse, qui est donc une Artémis qui est très rigide, très raide, puisque en fait, c'est ce qu'on appelle les potniatérones à l'époque. Ce sont des déesses primitives auxquelles après, les divinités plus récentes vont s'assimiler. Et sa caractéristique, autre qu'elle ressemble à un pilier presque, hein, il n'y a que les bras qui dépassent et un peu les pieds, c'est que le torse est couvert de protubérances identifiées à des seins.
Oui.
Et évidemment, ça donne quelque chose d'assez particulier. Et donc, moi, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, c'est quoi ça, évidemment. Puis bon, pareil, j'avais 20 ans, hein, je ne connaissais pas grand-chose. Et puis, bon, j'étudie tout ça. Et puis, quelques années plus tard, donc j'étais en thèse, donc j'avais 25 ans,
Et votre sujet de thèse, c'était quoi?
Les programmes iconographiques en Golden Arbonaise.
D'accord. Voilà.
Mais quand j'allais à Rome, j'en profitais pour accumuler de l'iconographie. Et donc, je vais à Rome et je vais au musée du Capitole. J'ai beaucoup de souvenirs avec le musée des Capitoles.
Oui.
Et là, ils
c'est
en ont
un
une,
très, très beau musée.
Ils en ont une grande, grand format magnifique de cette Artémis d'Éphèse. Alors, j'étais en train de l'admirer. En plus, elle était en position centrale à ce moment-là et tout. Je faisais le tour. J'étais admirative. En plus, la chance. J'ai eu quelques minutes toute seule avec elle.
Elle a des couleurs particulières.
Oui, elle est blanche et noire, en fait. Et je profitais du calme, parce que bon, au musée du Capitole, il y avait beaucoup de monde. Donc, pour une fois, j'étais seule dans une pièce et j'admirais. Puis tout d'un coup, j'entends un brouhaha qui arrive. Une classe d'adolescents qui arrivent. Des Italiens. Bon, oui. Jusque-là, tout va bien. Et évidemment, ils sont arrivés devant cette statue. Vous imaginez là, les commentaires que j'ai pu entendre. Et là, je me suis dit, ah oui, ah ben moi aussi, il y a quelques années, j'étais un peu comme eux. Ah ben j'ai grandi, j'ai vieilli.
Mais c'est vrai qu'elle est magnifique.
Elle est magnifique, oui. Mais c'est vrai que ça surprend quand on n'est pas au courant.
Elle peut être dérangeante.
Déroutante et dérangeante. Et puis, bon, c'est vrai que bon, voir cet amas de saints comme une grappe de raisin, c'est quand même particulier. Il faut bien reconnaître que c'est...
C'est la féminité, la fécondité, plus.
Ah ben oui, là, c'est des déesses mères, en fait. Exactement. C'est très particulier, oui.
Alors, il nous reste encore un petit peu de temps. Qu'est-ce qu'on va choisir? Parce que j'ai sous les yeux
plein de choses.
Donc, c'est très difficile ce que je vous demande.
Il y a une autre œuvre que j'aimerais bien mettre en valeur, qui est peu connue et qui est pourtant énorme, parce qu'elle doit faire 2 mètres de haut, et qui est au Vatican. C'est la Juno Sospita. Alors, elle est peu connue parce que bon, les gens connaissent Junon classique avec son petit diadème, une dame avec un chignon. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ère grecque. Enfin, elle a été assimilée à l'ère grecque, même si elles n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques. Et cette Juno, alors oui, l'explication, c'est que les Romains ont leur divinité, mais les Italiques, c'est-à-dire les autres peuples de la péninsule, ont leur propre divinité. Oui. Et ensuite, il va y avoir une assimilation. Et donc, cette Juno Sospita, c'est
un syncrétisme parfait.
C'est un syncrétisme, voilà, avec la divinité du Lanuvium, qui est très particulière. Et cette Juno Sospita, elle est représentée avec une peau de chèvre ou de bouc, selon, couverte sur elle, avec la tête de la bête sur sa tête à elle, un peu comme la Léontée d'Hercule.
Oui. Voilà, mais c'est pour une femme, c'est assez rare.
C'est assez rare pour une divinité, pour une déesse, en plus une déesse mère, enfin une déesse protectrice des femmes. Et elle est une déesse combative puisqu'elle est armée. Elle a un bouclier, une lance, et on la voit même sur certains objets face à Hercule, qu'elle combat, en fait, Hercule étant un peu la sauvagerie, l'homme sauvage qui arrive, et donc Junon défend les femmes, et notamment la virginité des jeunes filles. Donc c'est un peu un combat entre l'ordre civilisé, si vous voulez, et le désordre sauvage de cet Hercule, qui est une espèce de... Parce que Hercule, c'est l'Héraclès et l'Hercule, ce sont aussi des divinités ancestrales sauvages. Hein. C'est presque une entité pré-divine, presque, hein, cet Hercule. Et donc, cette Juno Sospita est très peu connue par le public. Et il y a donc cette sculpture au musée du Vatican qui est à voir absolument si on va là-bas. Quoi,
parce et que son nom est joli aussi, Sospita.
Oui, voilà, c'est ça. C'est franchement, et moi j'ai découvert, en plus son vêtement est très particulier, enfin, surtout ses chaussures qui sont des chaussures recourbées, qui sont très ancestrales. Hein, c'est quelque chose qu'on ne voit plus ensuite, ni même à l'époque républicaine. Enfin, c'est vraiment quelque chose de...
Et ce sera le mot de la fin. On la date à peu près de quelle période, cette statue?
De cette statue, ah, je ne sais pas. Je crois qu'elle est du 1er, je crois, ou du 2e. Je ne me souviens plus, honnêtement. Là, j'en parle parce que elle m'a marqué, mais j'avoue que là, je me souviens même.
De toute façon, dès la fin de l'émission, c'est évident, les auditeurs vont se précipiter
pour voir Apollon et Junon.
Voilà. Merci beaucoup, Cécile. Et à bientôt.
Merci à vous. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.